Et je vous propose de débuter cette tranche d'information, bien par exemple par le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est un budget hors norme qui arrive ce matin sur la table du Conseil des ministres. Le projet de loi de finances 2021 doit intégrer les 100 milliards d'euros du plan de relance. Explication de Pierre Neveu dans ce journal.
La pandémie a causé la mort de plus d'un million de personnes dans le monde.
Selon les recensements des autorités compilés par l'AFP hier soir, alors où en est-on de la course au vaccin? En France, à l'Institut Pasteur, un candidat vaccin est développé à partir du virus atténué de la rougeole. Nous expliquera Tara Schlegel.
Et puis Emmanuel Macron accuse la classe politique libanaise de trahison.
Après la démission hier du Premier ministre libanais qui n'a pas réussi à constituer un gouvernement, nous irons à Beyrouth rejoindre notre correspondante Laure Stéphan. Et puis reportage à suivre aux États-Unis où le droit à l'avortement est menacé par la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême. Reportage dans le Mississippi. Et puis la question du jour, Guillaume.
Eh bien, justement, dans le même registre, l'accès à l'IVG en France est-il menacé? Je poserai la question, Sophie, dans une dizaine de minutes à Sarah Durocher, elle est co-présidente nationale du planning familial.
Alors que l'économie mondiale subit de plein fouet les conséquences de la pandémie, le budget présenté ce matin en Conseil des ministres en France, alors que le déficit plombe et flambe actuellement, un chiffre inédit de plus de 11% du PIB, produit intérieur brut, cette année en raison du coronavirus et du plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé. Le projet de loi de finances 2021 intègre ce plan massif et doit concrétiser aussi trois axes majeurs définis par le gouvernement, la transition écologique, la réindustrialisation et la cohésion sociale. Le temps de la dépense publique est venu, assurer le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques semaines, une doctrine nouvelle pour l'exécutif, Pierre Neveu.
La ligne de conduite d'Édouard Philippe, alors Premier ministre, c'était la réduction du déficit public. Avec la crise sanitaire, la règle des 3% de déficit est aujourd'hui mise à mal. Pour le gouvernement, la priorité, c'est la relance de l'économie, quitte à creuser un peu plus la dette. Elle représentera 120% du produit intérieur brut à l'horizon 2025. Laurent Saint-Martin défendra le projet de loi à l'Assemblée. Il est le rapporteur général du budget.
Il y avait deux options, en fait. Soit on augmentait très massivement les impôts des Français, ce qui était assez irréaliste en aussi peu de temps, soit on passait par l'endettement. Donc l'endettement a permis de sauver notre économie et beaucoup d'emplois de nos concitoyens, notamment par le financement du chômage partiel. Et l'endettement financera la reprise.
Le recours à l'endettement est un choix pleinement assumé par le gouvernement, mais ce n'est pas la bonne méthode, explique Charles de Courson, vice-président des Républicains de la Commission des Finances.
Le problème, c'est où est-ce qu'on fait des économies? On peut appeler les couches sociales les plus aisées à contribuer à l'effort et de protéger nos concitoyens les plus modestes, d'avoir une politique juste et équilibrée, et ne pas dire on s'endette et puis on verra plus tard. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui, la politique de l'open bar permanent.
Cette idée d'augmenter la dépense publique n'est pas nouvelle. Emmanuel Macron s'en faisait l'apôtre à l'issue de la crise des Gilets jaunes, estimant alors que la règle d'or des 3% était un débat d'un autre siècle.
Un profond changement de cap aussi en Allemagne pour ce budget 2021. Berlin s'assied sur la rigueur budgétaire après des décennies d'une gestion drastique. À Berlin, Ludovic Piétenu.
C'est même la première fois depuis 2011. Berlin s'autorise une entorse à la Constitution qui prévoit un frein à l'endettement, déficit quasi interdit, pas plus de 0,35%. Grâce à cela, et donc des investissements très limités, le pays n'a cessé d'accumuler ces 5 dernières années des excédents budgétaires qui lui ont permis de financer un plan de soutien à l'économie parmi les plus généreux du monde. 2020 et maintenant on le sait, 2021, le budget plonge dans le rouge, les déficits se creusent partout, ici comme sur le reste du continent européen. Berlin a contracté un montant record de 217 milliards d'euros de dettes et encore 96 milliards sur les comptes de l'an prochain. Pour 2022, passé les élections, le ministre des Finances promet seulement 6 milliards d'euros de dettes. C'est un retour à la normale, entre guillemets, ce serait dans les clous de la règle constitutionnelle.
Ludovic Piétenu.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Plus d'un million de personnes sont mortes à cause du Covid-19 dans le monde, selon les recensements des autorités compilés par l'AFP.
Oui, 9 mois après la détection du nouveau coronavirus en Chine, le monde a passé la barre hautement symbolique du millionième décès officiellement lié à la maladie, selon un comptage de l'agence France Presse hier soir. Au total, plus de 33 millions de cas ont été officiellement enregistrés sur les 5 continents, alors que plus de 22 millions de personnes sont considérées comme guéries par les autorités. autorités sanitaires. La course contre la montre pour trouver un vaccin se poursuit. Près de 200 vaccins potentiels seraient en concurrence à travers le monde, mais pour l'instant, une quinzaine a été testée sur l'homme seulement. En France, à l'Institut Pasteur, la course a commencé dès la fin du mois de janvier. 3 pistes sont étudiées et un vaccin a déjà fait l'objet d'un essai clinique sur l'homme. Il s'agit d'un vaccin candidat-vaccin développé à partir du virus atténué de la rougeole, Tara Schlegel.
Oui, c'est un virus atténué qui ne peut pas rendre malade et qui va servir de vecteur. Christophe Denfer, le directeur scientifique de l'Institut Pasteur, détaille les étapes.
Modifier le patrimoine génétique du virus de la rougeole, insérer dans ce patrimoine génétique une séquence d'ADN qui correspond à une région du génome du SARS-CoV-2 qui code pour la protéine S, la protéine qui fait les spicules du coronavirus.
Le vecteur apporte donc comme un cheval de Troie cette protéine spike. Théoriquement, l'homme vacciné fabrique alors des anticorps contre elle qui le protégeront du Covid. Sur les souris, ça marche si bien que l'Institut Pasteur a débuté en août les essais cliniques sur l'homme, précisément.
6 personnes, ce qu'on va appeler des sentinelles, pour savoir si ces personnes ne rencontrent aucun effet secondaire.
Les premiers résultats peuvent être fin novembre, alors ce sera au partenaire de Pasteur, l'entreprise MSD, de décider de lancer ou non un essai de phase 2-3. Il faut savoir que l'Institut Pasteur travaille aussi sur un autre vaccin similaire, un lentivirus, là encore modifié génétiquement pour apporter la protéine spike dans nos organismes. L'équipe qui mène ces recherches-là a découvert quelque chose de très intéressant. Ce deuxième candidat vaccin s'avère extrêmement efficace sur les souris quand le rappel du vaccin est inhalé sous forme de spray dans le nez. En effet, les anticorps développés au niveau des voies respiratoires font baisser la charge virale dans les poumons des souris d'un facteur 100 000, beaucoup plus que si on faisait 2 injections sous-cutanées. Mais pour l'instant, ce candidat-là n'a pas encore été testé chez l'homme.
Merci Tara Schlegel, vous signez aussi un article à retrouver en ligne sur franceculture.fr. Depuis hier soir, les bars ferment à 22h à Paris pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie. Reportage à suivre dans le journal de 8h sur France Culture.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Emmanuel Macron accuse la classe politique libanaise de trahison au lendemain de l'échec d'une tentative de former un gouvernement au Liban.
Depuis l'Élysée, hier soir, le chef de l'État a fustigé le comportement de la classe politique au Liban, alors que le pays est plombé par une crise profonde, encore accentuée depuis l'explosion du 4 août dernier sur le port de Beyrouth. Emmanuel Macron.
Les forces politiques libanaises, leurs dirigeants, les dirigeants des institutions libanaises n'ont pas souhaité, clairement, résolument, explicitement, n'ont pas souhaité respecter l'engagement pris devant la France et la communauté internationale. Ils ont décidé de trahir. Je constate que les autorités et les forces politiques libanaises ont fait le choix de privilégier leurs intérêts partisans et individuels au détriment de l'intérêt général du pays. Je décide donc de prendre acte de cette trahison collective et du refus des responsables libanais de s'engager de bonne foi dans le contrat que la France leur a proposé le 1er septembre dernier.
Le chef de l'État accuse donc la classe politique libanaise d'être responsable de l'impasse au Liban. Et tout au long de ses propos, ses critiques ont aussi plus précisément visé le Hezbollah, accusé d'avoir instauré un climat de terreur et d'être prêt à la politique du pire. Au Liban, la classe politique a gardé le silence. À Beyrouth, Laure Stéphan.
La plupart des dirigeants libanais ont gardé le silence hier soir après les propos tenus par Emmanuel Macron, pas même un tweet pour réagir. Mais de nombreux Libanais, journalistes ou militants, se sont eux exprimés en affichant leur division, soutien d'une partie de ceux qui rejettent la classe politique libanaise et estiment que le président s'est placé du côté du peuple et a été direct envers les dirigeants qu'il a taxés de profiteurs. Applaudissements encore d'éditorialistes opposés au Hezbollah qui considèrent qu'Emmanuel Macron a crevé l'abcès en accusant le parti chiite allié de Téhéran d'être le principal fauteur de troubles. Rejet au contraire parmi ceux qui soutiennent le Hezbollah. Sur la chaîne Al-Mayadine, des commentateurs ont comparé Emmanuel Macron à un cheval de Troie de la politique américaine au Proche-Orient ou à un haut commissaire en référence au temps du mandat français sur le Liban. Parmi les autres passages les plus commentés, les multiples références d'Emmanuel Macron au risque de guerre civile et le calendrier qu'il a établi, un mois à un mois et demi pour faire le bilan, cela concorde avec les élections américaines et fait dire à certains observateurs qu'il n'y aura aucune solution politique au Liban avant cette échéance et son influence sur la donne régionale guettée par divers partis libanais, à commencer par le Hezbollah.
À 7h35 dans la revue de presse internationale, Camille Magnard reviendra sur la situation du Liban sur France Culture. Des bombardements et des tirs d'artillerie auraient fait au moins 24 morts hier dans des combats intenses entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh. Il est encore difficile à cette heure d'obtenir des précisions sur le bilan de ces affrontements. Loi martiale et mobilisation générale entre ces deux anciennes républiques soviétiques, alors que la crainte d'un embrasement plus large plane sur la région. L'Azerbaïdjan est proche de la Turquie et l'Arménie proche de Moscou. Les Nations Unies, la France et les États-Unis ainsi que la Russie ont appelé à un cessez-le-feu hier. Analyse à suivre dans le journal de 8h sur France Culture. Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis après le décès de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg et son remplacement à la Cour suprême par une juge catholique anti-IVG par Donald Trump. Cette nomination pourrait fragiliser la décision historique de 1973, l'arrêt Roe versus Wade, qui a fait de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse un droit constitutionnel pour les Américaines. Dans le Mississippi, où la loi sur l'avortement est l'une des plus restrictives du pays, c'est une lutte de tous les jours. Benjamin Ellis s'est rendu à Jackson, devant la dernière clinique pratiquant l'IVG dans cet état.
Impossible de la rater, on ne voit qu'elle en bord de route. The Pink House, la maison rose, hein, rose vif, le dernier bastion dans un état hostile.
Hi. Laura Duran.
Elle est présidente du mouvement Pro-Life Mississippi.
On espère que les juges vont respecter la Constitution et réaliser que la vie est précieuse. Et que la vie dans l'utérus est précieuse. La décision de Roe contre Wade est un désastre. Et nous prions pour que cette décision soit renversée. Dès que nous aurons le nombre suffisant de juges, ce serait une bonne chose pour la vie.
Dorinda?
Yes, Dorinda.
Dorinda Hancock, 61 ans, cofondatrice d'une association qui se fait appeler Pink House Defenders, une poignée de militantes qui chaque semaine escortent les patientes du parking jusqu'à la clinique pour leur éviter tout contact avec les manifestants anti-avortement. Okay. Leur page Facebook, elle publie des vidéos de ce que font les manifestants anti-avortement.
C'est du harcèlement. Je ne suis pas inquiète, je suis terrifiée. Parce que s'ils arrivent à renverser la décision Roe contre Wade, dans les 24 heures, cette clinique sera fermée. L'avortement sera illégal dans l'État du Mississippi. Toute la lutte des femmes pour garantir ce droit depuis 47 ans, on peut le perdre comme ça, en un clin d'œil.
Toute seule au Mississippi, The Pink House reste debout jusqu'à présent, sous la pression quotidienne des opposants, galvanisés par le président.
Reportage France Culture signé Benjamin Illy. Le temps de la pluie du nord jusqu'aux Bouches du Rhône sur le centre du pays ce matin, du soleil le long des côtes et à l'est du pays, température comprise entre 3 et 15 degrés ce matin du nord au sud.